Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens ?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaire qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
Bienvenue Guillaume Rosier, je pense que toutes les blagues ont été faites. Est-ce qu'il faut faire une génuflexion quand on vous voit ? Vous seriez au Royaume-Uni, vous auriez été probablement anobli par la reine, mais c'est vrai qu'on vous doit beaucoup. Bon, il y a les honneurs évidemment qui vous ont été rendus, on a beaucoup parlé de cette distinction de l'Ordre National du Mérite qui vous a été remis, et
c'est
puis il y a eu suprême récompense, parce que là pour le coup on a le droit de comparer, il est peut-être plus puissant qu'un chef d'État, mais un visio-call avec Tim Cook, le PDG d'Apple, qui s'est dit bluffé par votre travail.
Je pense qu'il était heureux de voir que des initiatives peuvent émerger, des citoyens, de voir que des citoyens peuvent se rassembler, des citoyens qui ne se connaissaient pas dans les 150 contributeurs de Bitmados Covid Tracker. Personne ne se connaissait, moi je ne connaissais personne.
Coucou les gars, je sais qu'on se voit tout à l'heure, mais je viens de tomber sur une interview passionnante, fallait trop que je vous en parle. Ça y est, Guillaume Rosier a reçu la Légion d'honneur.
Vu ton enthousiasme, ça doit être quelqu'un d'important. Est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer, s'il te plaît ?
Mais si, enfin, c'est le créateur de Covid Tracker, non ?
Oui, c'est ça. À seulement 24 ans, il est récompensé de la Légion d'honneur, alors que normalement, ça nécessite 10 ans de service pour l'intérêt général. Vous vous rendez compte ? Ça montre à quel point son initiative citoyenne a changé la donne pendant la pandémie.
Attends deux secondes. C'est quoi Covid Tracker, déjà ?
Mais si, tu sais, c'est le site qui propose chaque jour des graphiques et des courbes pour expliquer l'évolution du virus et les chiffres avancés dans les médias.
Ah, d'accord. Ah bah c'est super, j'en avais vaguement entendu parler.
Mais du coup, vous trouvez pas ça curieux que ce soit un citoyen tout juste diplômé et non l'État qui mette en place ce dispositif ? Une telle initiative, ça apparente presque à du service public ?
Ouais, t'as raison. Mais surtout, en plus, les politiques l'ont tous récupéré à leur compte, non ? C'est un peu bizarre.
Je sais pas trop, il faudrait que je me renseigne sur la question, que je la creuse un peu plus et puis je vous rappelle.
Salut à tous, dans ce 8e épisode de Révolution numérique, le podcast de Sciences Po Ex, on est avec Agathe et Benjamin, et moi c'est Eva. Aujourd'hui, on va parler des questions numériques relatives au Covid, mais surtout à l'open data. C'est-à-dire comment l'open data des administrations permet l'émergence d'initiatives citoyennes. On va partir des initiatives citoyennes et numériques apparues pendant la crise sanitaire pour informer et lutter contre le virus, pour montrer que globalement, l'open data est à l'impulsion de plusieurs initiatives et rend réalisable bon nombre de projets. D'emblée, les notions sont complexes et surtout floues pour la plupart des gens. Les anglicismes se multiplient à l'image de tout ce qui est technologique et numérique. Par exemple, open data et open source sont des termes à distinguer. Vous avez déjà pu entendre l'expression open source, censée être garante de transparence et utilisée par plusieurs entreprises pour légitimer leurs activités. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le mouvement open source, code source ouvert en français, né en 1997 avec le hacker Eric Raymond. Le code source est ce qui fait fonctionner le logiciel, soit une partie qui n'est généralement pas visible du public. Quand on parle d'open source, il s'agit donc de logiciels dont le code est accessible, modifiable et partageable par d'autres développeurs afin de le faire évoluer. On oppose le code source ouvert au logiciel propriétaire, où personne d'autre que le propriétaire ne peut publier sur le site. Tenez, un exemple d'open source que vous connaissez tous, notre cher Wikipédia. N'importe qui, vous et moi et puis tous les autres, peut être administrateur du site et publier ce que bon lui semble. Le concept d'open data, données ouvertes en français, n'a pas de rapport avec le code source d'un logiciel. C'est une pratique qui consiste à rendre des données publiques pour qu'elles puissent être exploitées et réutilisées par n'importe qui. L'Open Knowledge Foundation a défini en 2005 les critères essentiels qui le définissent. D'abord, les données doivent être facilement accessibles. Ensuite, le format de téléchargement des données doit permettre la réutilisation et la distribution de celles-ci. Et enfin, il ne doit y avoir aucune restriction sur qui peut utiliser les données, ce qui permet notamment la commercialisation de celles-ci une fois traitées. Ce principe peut s'appliquer à des informations en provenance de n'importe quelle source sur n'importe quel sujet. La plupart du temps, l'open data provient du gouvernement ou du secteur public. Ici, Wikipédia ne propose pas d'open data. Si les données disponibles sont réutilisées telles quelles, sans modification ou sans en citer la source, cela sera assimilé à du plagiat. Vous saisissez la différence entre open source et open data ? Voilà de quoi y voir plus clair. Bref, Covid Tracker, au même titre que Vitmados, qui recense les créneaux de vaccination disponibles partout en France, sont des initiatives numériques citoyennes menées par Guillaume Rosier. Les initiatives de ce type peuvent également émerger dans des hackathons, qui sont des réunions de spécialistes en informatique qui cherchent à concevoir de nouvelles applications et de nouveaux outils, très souvent en open source. Ce n'est pas le cas pour Covid Tracker ou Vitmados, qui sont des projets spontanés. Ces initiatives ont pu voir le jour grâce à l'open data, parce que sans l'accès aux données officielles et transparentes, Guillaume n'aurait rien pu faire. Quel graphique, quelle carte, quel tableau sans données ? Aucun, cela va de soi. En réalité, en partant de la pandémie et sur la question des initiatives citoyennes autour de l'open data, on se rend compte que certains points sont complexes à saisir, notamment l'interdépendance qui existe entre les pouvoirs publics et les citoyens. La notion même de service public s'en trouve floutée. Pour mieux saisir les enjeux de telles problématiques, laissez-nous vous éclairer plus dans le détail avec, pour commencer, une brève présentation de l'open data et de son cadre légal.
Bon, comme on a pu le voir, ce sujet peut paraître un peu technique, mais il souligne des éléments très importants. Pourquoi est-ce que ça serait aux citoyens d'agir pour proposer des initiatives citoyennes basées sur de l'open data, que ça soit via des hackathons ou des projets moins structurés ? Comme on l'a dit, l'État n'était pas en reste au point de vue des initiatives numériques concernant la crise sanitaire. Et si Tous Anti-Covid peut être considéré comme un succès, son prédécesseur Stop Covid a péché justement par manque de transparence. Quant au système actuel de Tous Anti-Covid, il repose toujours sur une utilisation ambivalente des données privées, à savoir la position des citoyens. Le pass sanitaire a par ailleurs engendré de fortes mobilisations durant l'année 2021. Dès lors, comment peut-on expliquer cet écart qu'on voit à vue d'œil entre le pouvoir étatique et la société civile concernant la pertinence des initiatives qui sont prises ? En effet, on dénombre de nombreux projets d'intérêt généraux conçus par des citoyens pendant la crise. On a évoqué Covid Tracker, qui explicitait les chiffres autour du Covid en France, Vitmados, qui permettait de trouver un rendez-vous de vaccination rapidement, ou Covid List, qui assouplissait l'accès aux vaccins en permettant aux médecins de contacter des volontaires en cas de disponibilité de vaccins afin de ne pas gâcher les doses disponibles. Tous ces projets sont citoyens et fonctionnent en utilisant l'open data. Mais qui fournit les données ? Eh bien, c'est très simple, les administrations et les domaines publics justement, car ces chiffres ne sortent pas de nulle part, bien évidemment. Tout commence avec la loi de 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs. Chaque citoyen peut ainsi réclamer grâce à cette loi l'accès aux documents des administrations sous certaines conditions. La loi Lemaire de 2016 continue ce processus en obligeant les administrations et services publics à rendre accessibles en open data la plupart des documents les concernant. C'est grâce à ces documents libres d'accès que des initiatives comme Covid List ou Vitmados ont pu être lancées. Et c'est ainsi que des citoyens lambda parviennent à surpasser l'État dans la conception d'outils informatiques libres d'accès aux données vérifiées. En effet, Stop Covid comme Tous Anti-Covid sont accusés, comme on l'a dit, de chercher à accéder à une donnée précieuse, la géolocalisation. Ceci s'ajoute aux nombreuses critiques quant à l'inefficacité du gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire. Un couac avait beaucoup fait parler de lui à l'époque. Jean Castex, dans une interview sur France 2, en septembre 2021, avouait ne pas utiliser Stop Covid, malgré la communication gouvernementale à outrance poussant tous les Français à obtenir l'application. En d'autres mots, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ces errements paraissent d'autant plus graves quand on les compare à ces actions de bénévoles qui ont contribué à l'endiguement de la pandémie en 2020 et début 2021.
Mais alors du coup, l'État est le grand méchant dans l'histoire, régalien incapable d'assumer des tâches d'intérêt général ? Pas forcément, car s'il laisse les citoyens créer d'eux-mêmes ces services, il prend bien en garde de leur laisser l'accès aux données. Ce mécanisme s'est en fait retrouvé à l'échelle internationale, la plupart des données du secteur médical se sont ouvertes via la crise sanitaire à l'échelle planétaire. Le 11 janvier 2021, la Chine livrait en open data le génome du SARS-CoV-2 qui permet aux chercheurs de l'Institut de virologie de la Charité à Berlin de développer les tests PCR. Cette internationalisation des données permet une certaine division des tâches et une application des expertises de chacun pour résoudre des problèmes globaux. Et l'État français ne fait pas exception. Mais quand on parle d'État, on crée inconsciemment l'idée d'une structure monolithique, indépassable, un bloc qui fait face aux citoyens. En réalité, l'avancement des différentes administrations dans le domaine de l'open data est bien différent. C'est justement le but du gouvernement d'améliorer la situation en la matière, dans un but de transparence, comme pour aider à la conception d'initiatives comme Covid Tracker, en ne se reposant pas uniquement sur des administrations publiques dont le but principal est autre. Cela s'observe quand on constate la législation sur la question, la loi de 2016 qu'on a évoquée est renforcée dès 2018. De plus, une circulaire du début de 2021, suite à une enquête sur la question ordonnée par Édouard Philippe, pousse à la transparence maximale de l'État et ses administrations concernant les données, ordonnant notamment la nomination d'un administrateur par ministère chargé de coordonner l'ouverture des données. Simple tentative de se décharger de ses responsabilités ? Si l'État admet ainsi indirectement qu'il ne peut pas concevoir des outils parfaits lui-même, la dynamique est surtout celle d'une coopération. Et c'est justement Guillaume Rosier, notre Français national, qui le dit. La focale médiatique tend à cacher cet état de fait en se concentrant sur le fringant jeune homme de 25 ans qui a sauvé le pays en 3 jours avec une patate et des données obscures qui sont en fait celles transmises par l'État. C'est le cas dans l'interview de Guillaume Rosier que nous vous diffusons depuis tout à l'heure, la journaliste opposant dès le début les réussites de l'ingénieur à celles de l'État. Sans s'étendre sur la question, il est bon de donner quelques autres exemples de la coopération société civile-État. Vous avez probablement entendu parler du Nutri-Score, initiative du gouvernement français qui s'impose peu à peu au niveau européen. Ce système d'étiquetage se sert d'Open Food Fact, une base de données en open data mondiale, citoyen et à but non lucratif. Il en va de même pour l'application Yuka, que vous utilisez peut-être. Autrement dit, la coopération ne va pas que dans un sens. Grâce à la libre circulation des données, chacun, même l'État, peut concevoir des projets d'intérêt public. En réalité, l'open data est un secteur qui fonctionne bien sur le concept de coopération entre l'État et les citoyens. Alors, tout baigne sous le soleil des pays de données ? Pour en être certain, il faut étudier les possibilités que cette coopération ouvre. En effet, quels enjeux de commercialisation, de progression du numérique dans notre vie ce système apparemment idéal produit-il ? Voilà l'occasion de parler d'une notion primordiale, le service public citoyen.
Alors, qu'est-ce que ce service public citoyen ? On a demandé à Monsieur Samuel Goeta, spécialiste de la question de l'open data et professeur de Sciences Po Aix, de nous résumer cette notion clé.
En soi, ce qui s'est passé sur les données Covid, ça s'est déjà passé sur d'autres domaines, c'est pas nouveau en soi que dès qu'on met des données en open data, d'autres acteurs, des acteurs s'en saisissent. Et c'est même le rôle même de l'open data, hein, c'est de publier des données pour que des acteurs s'en saisissent, publient de nouveaux services, de nouvelles analyses, nouvelles études, donc c'est fait pour ça, hein. Donc en soi, c'est sûr que ça va perdurer. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est si on regarde ce qui s'est passé sur les données Covid, c'est un peu l'idéal de ce qu'on attend de l'open data.
Mais alors, ce mouvement est-il promis à un brillant avenir ? Eh bien, toujours selon Samuel Goeta.
Sur la gestion de crise, il y a aussi l'idée aussi de prévenir les crises, avec cette notion qui s'est beaucoup développée de résilience. Et pour ça, dans l'idée de résilience, il y a aussi l'idée de se préparer aux crises, d'éviter les crises. Et donc, pour ça, ça demande d'avoir des données pour la préparation à ça. Et puis, en fait, plus largement, il y a quand même un certain nombre d'administrations qui se sont rendues compte qu'elles étaient assez démunies à la fois pour fournir des services ou pour et qui leur manquait beaucoup de données.
Mais il ne faut pas oublier l'autre facette de cette libéralisation. Si, de fait, les initiatives citoyennes permises par l'open data étaient bien plus efficaces que l'État sur certains domaines tels que le fournissement d'informations pertinentes à la population, elles auraient tout à fait pu être commercialisées comme le permet l'open data.
Ce mouvement libertarien ouvre ainsi la voie à tout un pan d'utilisation des données à des buts privés. Il faut également évoquer l'impact politique de ces initiatives. Ces données peuvent légitimement être utilisées pour contester les décisions de l'État en scrutant celles-ci et en pointant les défaillances visibles à l'œil nu ou explicitées par Covid Tracker, par exemple. Il existe donc tout un pan politique et commercial à cette relation qui est encore à peine perceptible en France.
Et cette politique libertarienne, ainsi que la question des données, touche d'autres secteurs au sein même du monde médical. Prenons Doctolib. Ce site a désormais accès à l'ensemble des données médicales de la population, bien qu'il soit privé et joue un rôle pivot au sein du secteur médical. Il s'agit d'une autre conséquence de cette libéralisation générale qu'a entrepris l'État. Si elle permet très souvent d'obtenir des services plus efficaces, elle soulève également nombre de questions quant à la sécurité des données des Français ainsi qu'à la place d'un État dont la compétence a clairement été remise en question par la crise. Le temps nous dira si cette politique sera proposée plus d'inconvénients que d'avantages.
Pour aller plus loin, nous avons quelques recommandations à vous faire.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Les chiffres sont comme les gens. Si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. Citation de Didier Alépée. Et effectivement, il ne faut pas oublier que toute donnée est travaillée et malléable. Un grain d'esprit critique ne fera donc jamais de mal, surtout quand les arnaques inspirées des initiatives comme Covid Tracker fleurissent. Pour mieux cerner ces chiffres, leur utilisation et les enjeux autour de cette question de l'open data, on vous recommande le TED Talk de Jean-Marc Lazare, intitulé « L'open data, avenir des big data ?» Le TED Talk est disponible sur YouTube.
Cet épisode du podcast visait donc à interroger la place de l'État face aux initiatives citoyennes numériques. Nous pouvons également nous interroger sur l'avenir de ce genre d'initiative, ainsi que sur l'avenir de l'intervention de l'État en temps de crise. Est-il pertinent de le laisser prendre les rênes, ou devons-nous également intervenir ? Ce modèle d'open data se pérennisera-t-il vraiment après la crise avec une législation encore plus ouverte sur la question ? C'est sur cette interrogation que vous nous laissons aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir suivis, en espérant que vous y voyez déjà un peu plus clair sur les enjeux autour de l'open data dans ces temps de crise. Dans le prochain épisode, on abordera la façon dont les réseaux sociaux numériques peuvent être utilisés pour analyser les mobilisations anti-pass. À bientôt !